Laurence Aloha. Tegi Mfatrore. Musique du monde sur RFI.
C'est en breton et en occitan auvergnat que vont s'écouter ces musiques du monde avec deux invités, le chanteur et compositeur breton Dennis Prigent et Enes Bergès de Sourdure. Ce dernier jouera deux titres du nouvel album Des Mortes Vivas dans la seconde partie de cette émission. Dennis Prigent, quant à lui, présente son 11e album Sturanavel, qui veut dire le gouvernail du vent. Ensemble, nous allons inspecter le petit coffre d'Ajon où on a enfermé un ange déchu qui va couler dans l'océan. C'est le premier titre. Des guermes maths sur RFI.
Bienvenue. Talena la marit in bet daut bet a camiora tefe dit on et dam vele de ver a moi et di beta da preta
Dennis Prigent, vous sortez un 11e album qui s'appelle Sturanavel, qui veut dire le gouvernail du vent. C'est un album que vous avez produit dans des conditions assez particulières.
Oui, en fait, elle s'est fait comme habituellement, si ce n'est que les musiciens, les instrumentistes ont enregistré à tour de rôle au studio, et pas tous ensemble, en fait, contrairement à d'habitude. Mais habituellement, c'est vrai que j'enregistre mes chants a cappella, de façon à ne pas être influencé par les harmonies ou par la couleur de tel ou tel instrument, ou le style même d'un instrumentiste ou d'un musicien. Donc ça, c'est mes origines aussi, puisque j'ai commencé par le chant a cappella, par la guerce notamment, qui est un chant qui à l'origine est interprété a cappella. D'ailleurs, l'origine de la musique bretonne vient du chant a cappella en grande partie. Donc moi, c'est ma formation, c'est comme ça que j'ai appris, et c'est comme ça que je continue à enregistrer mes albums, toujours a cappella, j'enregistre les voix. Et ensuite, c'est un petit peu comme un corps, le corps du chant, que l'on habille au fur et à mesure des musiciens qui viennent au studio. On l'habille de couleurs instrumentales différentes, d'instruments, je fais appel à des instruments acoustiques, bretons ou non, mais qui, par la force des choses, deviennent bretons, une fois posés sur la mélodie bretonne. S'il y a des instruments, je fais appel aussi à une instrumentation plus contemporaine, entre guillemets, notamment à des claviers, des machines, des samples, des platines. C'est un vêtement qu'on tisse au fur et à mesure autour de ce corps qu'est le chant, ce corps nu au départ. Et au final, on lui crée un habit.
Un écrin.
Et c'est vrai que quand on voit la différence, et c'est une aventure bien sûr, parce que les arrangements ne sont pas préétablis, ne sont pas prévus dès le départ. Donc ce sont des arrangements collectifs qui se font, c'est le cas de le dire, de fil en aiguille avec le temps, jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Voilà.
Prigent, le premier titre qui en français signifie le vent contraire, dites-le nous en breton.
Sturanavel. C'est dans le vent contraire, nous pleurerons, dans le vent contraire, nous nous relèverons, dans le vent contraire, nous chanterons, dans le vent contraire, nous pleurerons, dans le vent contraire, nous continuerons, nous nous battrons, dans le vent contraire, nous 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 vaincrons et le sens du vent nous changeront. Voilà, c'est une sorte d'hommage comme ça à tous les peuples opprimés du monde et aussi à toutes les causes qui sont un petit peu, qui semblent un peu perdues. Et finalement, à force de se rebeller, à force de se révolter, on emporte certaines victoires. Donc voilà, c'est ainsi qu'il y a pu avoir notamment le vote des femmes ou voilà, aujourd'hui, il y a la loi Molac, notamment sur les langues dites régionales, qui vient d'être adoptée. C'est très long, ce sont des victoires de longue haleine. Au final, à force de se battre contre ce vent contraire, finalement, on finit par changer le sens de ce vent et le mettre de notre côté.
Quand vous écrivez, quand vous composez, Denis Préjean, vous êtes chez vous, vous avez un endroit particulier où vous travaillez. C'est un grenier ou une cave ?
En fait, c'est dans ma cuisine beaucoup. Voilà, j'ai une vieille maison très ancienne que j'ai achetée, c'est à l'état de ruine. C'était une maison du 15e siècle qui était vraiment en ruine, que j'ai restaurée au fil des ans, depuis 20 ans. Elle est toujours en restauration d'ailleurs. Et il fait très froid. Il y fait très froid, sauf dans la cuisine, où je peux mettre un radiateur, puisque les pièces sont assez grandes. Donc elles sont en hiver notamment, elles sont froides. Et même en été, pendant la canicule, il fait assez frais. Et la cuisine, c'est l'endroit le plus chaud de la maison. Donc c'est là que je compose essentiellement, que je dessine aussi, que je crée. C'est bien pratique, parce que parfois je peux me faire un café, je peux me faire à manger.
Est-ce que vous enregistrez vos voix dans la cuisine ? Vous avez mis le matériel dans la cuisine aussi, ou ça se fait ailleurs ?
Non, là j'ai une petite dépendance où j'ai aménagé un petit studio tout simple où j'enregistre mes voix a cappella.
Il fait froid aussi.
Et puis là il fait plus chaud aussi. Là c'est une pièce un peu plus chaude, mais c'est bien pratique en tout cas pour enregistrer mes voix parce que c'est vrai que à une certaine époque, j'étais obligé d'aller notamment à Paris ou dans des grandes villes là où il y avait des studios pour enregistrer mes voix. Mais maintenant c'est vrai que grâce au home studio, on peut faire ça chez soi. Et donc du coup de ce fait. Quand je suis, par exemple, dans mon jardin ou je suis affairé à autre chose, quand je sens ma voix, c'est vrai que la voix est comme un peu un baromètre, un thermomètre, elle bouge beaucoup avec le temps. Et parfois, il se trouve que, de façon inattendue, elle est hyper claire. La voix est vraiment comme alors à ce moment-là, j'arrête tout, j'arrête mon activité, je me précipite dans mon studio et je mets rapidement mon micro en route et j'enregistre. Pour profiter justement de cette clarté vocale du moment.
Sur son 11e album, Denis Préjean, il y a une valse que l'on peut danser jusqu'à l'ivresse avec deux invités que je n'avais pas vus dans votre discographie jusqu'à présent, Oxmo Puccino et la chanteuse Aziliz Manroff. Oxmo Puccino, les rappeurs, les diggers, les gens qui font des samples, vous aimez. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'inviter Oxmo sur ce titre, La valse de la vie, Waltz of Life?
Tout d'abord, c'est un pari pour moi de chanter une valse, puisque ce n'est pas du tout dans mon style, dans ce que je chante habituellement, hein. C'est pas du tout dans mon style de prédilection. Moi, je chante habituellement des Guers, du Canadiscon, des Song New, des cantiques aussi un petit peu, des Grassou.
Des trucs tristes, quoi.
Des choses tristes, mais aussi de gay, puisque le Canadiscon, c'est un chant à danser, donc c'est un chant de fête. C'est vrai que le breton, dans ses thèmes, peut aller très loin dans la tragédie, dans la fête, dans la joie, il peut aussi aller très très loin.
Mais les Guers, c'est un peu plus...
La guerre, c'est vraiment un chant dramatique. Voilà, c'est un chant
qui vous va bien.
Des récits, voilà, des récits tragiques, des récits des événements tragiques qui sont arrivés, qui me correspondent bien aussi, où la mort est omniprésente. Et le Canadiscon aussi, j'aime beaucoup, puisque ça, c'est vraiment le chant que l'on interprète habituellement dans le cadre de festounos pour mettre les gens à danser. Donc là, on est dans la joie, dans la communion, dans le festif. Mais c'est vrai que la valse n'est pas un style qu'on entend dans les fest-noz, de plus en plus joué par les musiciens, mais très très peu chanté. Et là, j'en avais composé une dans un style ancien. C'est plus une valse ancienne qu'une valse musette. Et je m'étais surpris d'ailleurs, elle était venue naturellement comme ça, parce que moi je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas l'écrire, toutes les mélodies me viennent naturellement comme ça. Et donc celle-ci m'était venue voilà, instinctivement, et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, tant qu'à pousser le pari un peu plus loin, pourquoi pas solliciter d'autres artistes, d'autres chanteurs sur ce titre-là, pour lesquels la valse aussi ne leur est pas familier. Et donc ils se sont prêtés au jeu, je dois dire. Donc j'ai fait appel à Zizi Monroe, qui elle vient de la country, et donc à Oxmo Puccino, donc une figure emblématique du rap en France, et ils ont accepté. Et puis on s'est bien, voilà, on a tous joué le jeu, et cette valse, je dois dire, nous a tous les trois envoûtés.
Dans 7 heures du mat, fier d'être un gentleman, big merman, oui, je m'inspire de la gentdame, on se tient par la taille, on s'enlace par les épaules, ça n'a jamais vibré comme ça depuis l'école. La tête suit les violons, les poings marquent la basse. Quand le pied gauche avance, le pied droit le remplace. Oh, on reprendra si les minots dorment. Tu joueras à la flûte de pan, pour moi le minot dort. Nous parlerons du beau temps sous un parapluie. Tu resteras pour les frissons et les poissons frits. Les murs sont bâtis des questions qu'on se pose, puis la vérité change la métamorphose. Je vous pose une vaste colle, cette vie est une valse folle.
Sur ce 11e album qui s'intitule Le Gouvernail du Vent, donc Storan Havel, vous disiez en début d'interview que vous aimiez aussi inviter pas simplement des voix extérieures mais aussi des instruments. Alors sur cet album on peut entendre du doudouk qui est un petit instrument avant qui doit faire quoi 25-30 cm qui est le symbole de l'Arménie. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait les ondes Martenot qui étaient jouées par Yann Tiersson, célèbre musicien breton, notamment sur le titre À la dérive.
Oui, c'est très féerique, oui. Il y a un côté Morgane, comme ça fait Morgane un petit
peu. C'est ça.
C'est vrai, oui. Il y a des résonances qui sont étonnantes et qui se marient bien, c'est vrai, à la musicalité de la langue bretonne. Et là, en fait, je dois dire que ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Là, j'ai adressé le chant a cappella à Yann Tiersson, qui lui possède un studio à l'île d'Ouessant, puisqu'il habite là-bas, le studio de l'Escale, qui était une ancienne boîte de nuit qu'il a aménagée en studio. Et donc là, quand il nous a renvoyé le chant, donc habillé de ses ondes Martenot, là, on a vraiment été tous surpris, quoi. C'est un peu comme une bouteille qu'on envoie à la mer quand on envoie un titre au musicien. Et quand elle nous renvoie, on a hâte un petit peu, comme une pochette surprise. On est comme des enfants avec les yeux complètement émerveillés quand on ouvre cette pochette pour découvrir quel son, quel habit a été fait autour du chant, a été conçu autour du chant. Et là, en l'occurrence, on a été d'autant plus étonnés qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Non.
Oh,
un texte aussi qui m'a été inspiré par la vision d'un crâne non loin de chez moi, à Plouzé-l'Ambre, parce qu'il y a ce qu'on appelle en Bretagne des ossuaires. Les ossuaires, ce sont des chapelles funéraires, qui sont des sortes de chapelles funéraires qui sont intégrées dans l'enclos paroissial d'une église. Et très souvent, tous les 5 ans, les 10 ans, on avait coutume de déterrer, de libérer en fait les ossements des tombes et de les mettre dans cette chapelle funéraire, dans cet ossuaire, à Garnel, comme on dit en breton. Et donc là, on mettait les os à la vue de tous, hein, les os des parents, on les mettait là à la vue de tous. Et les crânes, on leur réservait un autre sort. On les mettait dans une chasse, une petite maison en bois, avec le nom du mort écrit dessus et un épitaphe. Et donc, les gens de la famille ou les enfants pouvaient aller voir le crâne de leurs aïeux et se recueillir devant eux. Et moi, j'ai notamment composé à la vision d'un de ces crânes, j'ai composé un des titres qui est sur cet album, à savoir Penukelchiet, les têtes auréolées. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la mort en Bretagne n'est pas tabou. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle apparaît sous la forme de l'ankou, ce spectre décharné au visage ombragé d'un grand chapeau et portant une faux montée à l'envers. Alors l'ankou était très souvent le dernier mort de l'année. C'est lui qui prenait le relais à chaque fois.
Bar Zolvrud était noch harchet. Pelear au prud, dinme la varet. Pelear au can, au clotenou. Pelear au querzenou. Clear a zelet de tout l'opes. Pelear ta au cuisidiges. Pelear au skien, au présécou. Pelear au hall, cuirion des choux.
Des esprits gens, nous avons rencontré un jeune homme qui est occitan. Là, il vient de sortir son troisième album. Et en fait, comme lui aussi s'intéresse au terroir, chante dans sa langue maternelle, je lui ai demandé de vous poser une question en fonction de sa propre histoire. Lui, si vous voulez, il chante en occitan-auvergnat, mais il n'a pas l'impression de reprendre intégralement le répertoire des troubadours. Il a le sentiment que lui fait une musique à lui, une musique d'aujourd'hui. Il y a aussi de l'électro, il joue du dotard, il joue du violon, il a une formation de percussionniste et de guitariste. Donc, écoutez-le.
Comment vous définiriez aujourd'hui votre place à l'endroit où vous êtes en tant que musicien, chanteur, auteur de chansons? Quelle est la matière de cette place? Comment elle est faite? Comment elle est configurée? À quoi elle est branchée, en fait, pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rôle pour vous?
Dénès Prigent, donc la question vous est posée par Ernest Bergès du groupe Sourdure.
Moi, je me vois comme ma graine, comme mon chêne, comment a poussé en Bretagne ici. Pour moi, il est naturel de parler breton et de chanter en breton. Je pense que je serais né au Tibet, j'aurais eu la même démarche. Ou à La Réunion, j'aurais chanté du Maloya, j'aurais parlé créole. Mais donc pour moi, c'est tout à fait naturel. Cela ne veut pas dire que je suis enfermé, en fait, dans ma culture, dans mon pays. Au contraire, mes branches sont à l'écoute des vents du monde, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Comme disait le poète Kivik, on ne peut être universel que si on est enraciné. Et les gens qui revendiquent l'universalisme et qui renient leurs racines, leurs sources, en fait, je pense qu'ils ne sont pas sincères. Quand on est enraciné, on n'est plus à même d'aller vers la culture des autres et d'aimer la culture des autres. Je ne dis même pas tolérer. Je trouve que le mot tolérer est faible, presque dépréciateur. Je pense qu'on est plus à même d'aimer la culture des autres. Et donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je me vois. C'est pour ça que dans ma musique, on trouve bien sûr des influences bretonnes très fortes, mais on trouve aussi des instruments. Moi, je fais notamment appel aussi à des instruments qui ne sont pas forcément bretons, à l'origine, notamment parlé tout à l'heure du doudouk arménien, il y a également du bandoneon sur mon disque, du kanoun turc, mais finalement ces instruments adaptés à la mélodie bretonne deviennent bretons par excellence. Ils s'adaptent un petit peu comme un caméléon. Et à l'origine de la musique en Bretagne, il faut savoir que c'était le chant a cappella, il y avait le verbe et la mélodie. Et ensuite, on a accompagné la guerre par un instrument. Et là, c'était déjà une grande révolution, notamment c'était la harpe. Et puis ensuite sont venus s'ajouter la guitare qui est venue d'Espagne et qui en s'adaptant à la musique bretonne est devenue un instrument breton. Il n'y a pas un groupe de musique à danser, notamment en Bretagne, qui n'intègre de guitare aujourd'hui. La guitare est devenue un instrument breton. Et c'est comme ça que tous les styles de musique se sont faits. Hein. De deux entités musicales différentes, on en crée une troisième. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la rencontre. Le jour où j'aurais plus envie de rencontre en musique, je ferai autre chose. Parce que pour moi, la musique est avant tout rencontre, à partir de deux entités musicales, on en crée une troisième. C'est comme si on ouvrait une fenêtre sur un paysage jusqu'alors insoupçonné.
Musique du monde sur RFI.
Et on revient vers Ernest Bergès du groupe Sourdure et à sa question de départ.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rôle pour vous ?
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rôle pour vous, Ernest Bergès ?
Un rôle poétique, un rôle politique. J'essaye de vrai à faire entendre un monde possible, en risquant de faire de grosses erreurs. Hein. Du coup, c'est là aussi où il y a une responsabilité. Et puis après, un rôle de passeur, vraiment. Moi, j'ai rencontré ça, ça m'a touché. J'ai porté ça, ça m'a touché. Je continue à le porter et je le transmets. Je sais pas, il y a déjà ces trois principales définitions, je pense.
Et nous recevons Ernest Bergès, l'homme qui se cache derrière Sourdure. Sourdure est un projet d'électro médiéval où la vielle à roue rivalise avec la cabrette à soufflet ou le cornet à bouquin. C'est muni d'un dotard, qui est un luth d'origine asiatique à deux cordes, que Sourdure va interpréter deux titres de son tout nouvel album « Des morts vivas ». Que vive la mort. Sourdure sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
C'était Sourdure avec le titre Tota Perta. C'est extrait de son troisième album qui s'appelle Des morts viva, qui veut dire de morts vives. C'est un oxymore, Ernest.
C'est un oxymore. C'est une formule un peu carnavalesque, dans le sens où il y a une espèce de mouvement de retournement entre les choses qui arrivent à leur fin, la mort, la destruction, la mort biologique, les feuilles qui pourrissent par terre, le pourrissement, etc. et la renaissance possible. Il y a un peu un truc sur l'âme du carnaval.
Ernest Bergès, Sourdure, c'est votre projet solo, même si vous avez invité des amis lors de projets de scène, que vous ne faites plus en ce moment, évidemment, en raison de la pandémie. Sur cet album, vous avez pas mal d'invités, on en parlera au cours de cette émission. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'essence même de Sourdure. Vous avez partie de pas mal de formations. J'ai sous les yeux Organies, Kaumval, Tanz mein Herz. Ça sonne assez germanique. Et puis en 2016, vous lancez votre premier album sous le nom de Sourdure. C'était La Virée, avec des chansons auvergnates, occitanes. Enfin, c'est votre cheval de bataille. Alors là, on apprend qu'on peut jouer des musiques traditionnelles et jouer la carte de l'hybridation, ce qui semble quand même essentiel au sein de votre travail. La langue que vous parliez à l'instant, c'est un dialecte de l'occitan, mais ce n'est pas de l'occitan pur et dur.
Alors, il y a plein de façons de voir les choses à ce niveau-là. La mienne, c'est que ce qu'on appelle occitan, c'est un ensemble de parler qui, au niveau grammatical, au niveau de la syntaxe, au niveau des bases de l'expression, ont vraiment un socle commun qui vient du latin, mais qui, dans les formes, dans le vocabulaire employé, dans les accents, peuvent différer beaucoup. La variante que je parle et que je chante, c'est l'auvergnat. C'est une variante auvergnate. Voilà.
Mmh. Je vais vous faire écouter un petit extrait de votre album que vous connaissez par cœur. Et là, c'est une jeune femme qui chante.
Ce que d'une chaperoux est terrible. On mit en sous de la neuf ce fois aussi. Pleuja sous ce même, arrodonde et son pela, que tes lait jumet et la raya verde. Les boilettes ont le nom.
Sauf erreur, c'est la voix de Josiane Guillet sur le titre La Creatura. Je ne sais pas si on roule les airs.
La Creatura.
Qu'est-ce qui se raconte dans cette chanson?
C'est un poème sur la vie sauvage, sur les êtres du dehors, toutes les bestioles qui vivent dehors tout le temps, quoi. Voilà. Donc c'est pour moi en fait une espèce de façon de les admirer en les décrivant. Et en fait ce poème à l'intérieur du disque vient définir tout le reste parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que ce morceau-là en particulier, en fait, il parle de... Il y a de l'humain partout, et à ce moment précis, l'humain, en fait, on définit ce que l'humain n'est pas. Et aussi, ce qui est particulier, c'est que c'est un moment où on entend quelqu'un d'autre que moi, en l'occurrence Josiane Guillot, qui, elle, a grandi dans un environnement principalement occitanophone, et parle le parler de Thiers, où j'habite. Et voilà, j'avais aussi envie qu'à un moment, il y ait une présence physique d'un témoin vivant aujourd'hui de cette transmission-là.
Alors cet album, ce troisième album, je vous appelle Sourdure ou Ernest Bergès, qu'est-ce que vous préférez?
Comme vous voulez.
Ernest Sourdure Bergès. Sourdure, c'est le nom du projet, enfin c'est le nom de votre groupe.
Ouais.
Et Ernest Bergès, c'est votre nom à l'état civil. On parle peut-être de la construction de cet album, parce que j'ai vu qu'il y avait des cartes de tarot, mais que je ne connaissais pas, qui viennent illustrer cet album. Moi, je connaissais la papesse, la maison Dieu, le pendu, l'amoureux, l'ermite. Entre l'amoureux et l'ermite, peut-être pour vous. Dans le tarot de Marseille, il y a 78 cartes. Vous avez 10 morceaux. Comment l'espace, comment le pont s'est fait dans cet imaginaire, parfois même mystique et occulte?
Alors curieusement, à la fin, ça a pris la forme d'un jeu de cartes. Mais ce dont je me suis consciemment inspiré, c'est plutôt du Yi Qing, le livre du changement, le système divinatoire chinois, que je connais mieux parce qu'en fait, j'ai plus pratiqué. Je pratique pas le tarot. Ça m'intéresse énormément, mais c'est quelque chose que je connais moins. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que le système divinatoire est arrivé? C'est que j'ai essayé, dès le début, de construire les chansons les unes par rapport aux autres et de créer un système où il y a des interconnexions entre elles et où, en fait, chaque chanson chaque poème décrit une espèce de situation possible dans la vie. Une situation possible, un état possible, et ça parle tant de psychologie que de saison, que d'état social, politique, animal, etc.
Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans Nafesta, qui veut dire dame fête? Parce que ce qui est bien sur le livret de votre album, c'est que vous êtes en occitan-auvergnat, mais vous faites aussi une traduction française qui aide un petit peu les monolingues dans mon genre.
Alors Nafesta, donc dame fête, c'est vraiment... Pour moi, dans le disque, c'est l'explosion carnavalesque, à savoir la bascule d'un état normal à un état carnavalesque, et un état modifié. Et on entend la chanson concrètement bascule d'un arrangement à un autre, et dans l'autre arrangement demeurent des éléments de ce qu'il y avait avant, mais qui sont complètement atomisés, qui sont devenus une espèce de soupe. C'est comme si on changeait de corps. Voilà. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans ce changement de corps. Et c'est relié. On peut parler, à partir de cette chanson, on peut parler, par exemple, de saison. Moi, je situe ce poème au sortir de l'hiver. Et ben, je vois des réactions physiques très fortes, comme une sorte d'énergie qui sort, du coup, de l'éruption cutanée, des boutons, quelque chose qui transpire, qui se met à exulter un peu comme ça.
Ça fait envie.
Et donc, c'est la transformation, le passage de la fin de l'hiver au printemps, et aussi potentiellement quelque chose d'enfoui qui veut sortir, en fait, qui a besoin de sortir. Et c'est un moment de passage, en fait. C'est comme si on ouvrait une porte. Et quand on ouvre la porte, on ne sait pas ce qui va se passer.
Et ça me fait penser vraiment au tarot, sur les sens cachés des choses aussi. Mm-hmm. Parce que vous parlez d'enfouissement, de quelque chose qui sort pendant le carnaval, parce que les périodes de carnaval, c'est pour endosser une autre personnalité. Mm-hmm. On fait ce qu'on veut pendant le temps du carnaval. On a le droit d'être qui on veut, c'est un exutoire aussi.
Complètement. Bah voilà, c'est vraiment, dans cette chanson, pour moi, il y a cette énergie-là. Et la carte, si c'est une carte, la carte décrit ça.
Nafesta sur RFI. Alors ça, c'était le titre Nafesta, qui est extrait de ce troisième album de Sourdure qui s'appelle D'Amor Viva, qui veut dire de mort vive. Vous parliez souvent de carnaval, Ernest. Est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu un carnaval, que ce soit dans les Caraïbes, au Brésil ou même en France où on a,
en France, petit. Ça a été plutôt sous la forme de fêtes dans le sud et des moments où je ne m'y attendais pas. J'étais surpris. Je suis arrivé dedans sans y être préparé. J'ai trouvé ça très fort.
Vous avez participé?
Oui, mais j'avais pas prévu, en fait.
Si on vous demande de jouer comme ça au dernier moment, c'est pas possible. Là, vous êtes venu ici à RFI dans le grand studio et vous avez demandé 45 minutes de préparation parce qu'il y a tout un instrumentarium derrière vous. Vous êtes un homme orchestre. Est-ce que vous pouvez dire avec quoi vous avez joué, vous avez démarré l'émission et avec quoi vous allez la finir aussi?
Ouais. Alors je chante, déjà il y a moi, avec ma voix, déjà ça c'est portatif. Je joue du dotard, qui est un instrument persan à deux cordes. Dotard, ça veut dire deux cordes.
Guitare, ça veut dire six cordes.
Ouais.
Tar, c'est cordes,
tar,
en mogol,
c'est cordes. J'ai mes pieds qui me servent pour faire des rythmes, photorythmie, donc un ensemble de pédales d'effet qui me permettent de faire des rythmiques électroniques à partir de mon pied droit. Des grelots attachés à mes pieds, et c'est à peu près tout.
Quand vous produisez sur scène tout ce matériel, vous pouvez en jouer seul?
C'est le principe,
c'est le principe.
Ouais. Bah parce qu'au début, quand j'ai fait mon premier disque sous le nom de Sourdure, donc La Virée, j'étais, C'était un contexte de création en studio, entre guillemets. Même si c'était pas en studio, c'était chez moi. Mais j'avais toute l'attitude pour imaginer des choses. Et à aucun moment, je me suis posé la question de comment jouer ça en concert. C'est seulement venu après. Et pour moi, ça a été évident qu'il fallait inventer un truc que je savais pas encore faire. Et j'avais pas spécialement en tête de faire l'homme orchestre. Mais je suis arrivé à faire ça. Par nécessité, en fait.
Sur cet album, il y a pas mal d'instruments. Certains sont très, très anciens. Je pense notamment à la vielle à roue. Alors, je suis allée farfouiller un peu sur Internet. Visiblement, c'est un instrument qui est né dans une abbaye bénédictine en Allemagne au XIIe siècle. Il y a aussi la cabrette. Alors, la cabrette, ça fait penser à chèvre, mais c'est parce que l'instrument est fait avec de la peau de chèvre. Et ça, ce sont les Auvergnats de Paris qui l'ont lancé au XIXe siècle. Vous en jouez de la cabrette ou vous êtes invité ?
Non, j'aimerais beaucoup, mais il faudrait avoir plusieurs vies en même temps.
Mais voilà. Ne tient qu'à vous. Ouais. Changer de fuseau. Il y a aussi un cornet à bouquin. Je vous laisse le soin de présenter cet instrument avant.
Alors, le cornet à bouquin, je vais en parler mal parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais
c'est
un instrument ancien qui, je crois, date plutôt du début de la Renaissance,
17e.
Si je ne me trompe pas. Voilà, 17e, ouais.
Oui.
Et qui est, qui a la particularité d'être un peu entre la famille des bois et la famille des cuivres.
C'est
pas encore du cuivre, mais il y a une embouchure en corne. Donc ça donne un son proche de la trompette, mais par contre, le tuyau est en bois. Et en bois, c'est un bois tort, un peu légèrement en biais.
Ernest Bergès, je vais vous demander de présenter le dernier morceau que vous allez interpréter dans cette émission qui s'appelle « L'hiver des astres ». Alors l'hiver, plus loin des, plus loin astres. C'est extrait donc de ce nouvel album des Morts Vivas, de Morts Vives. En quoi cet hiver des astres est important dans la continuité de cet album de 10 titres qui joue avec les cartes du tarot?
Je fais une petite parenthèse. Ce qui est particulier sur ce disque, c'est qu'il y a 100% de composition.
Oui.
Donc c'est l'idée de tradition aussi, elle est complètement questionnée là-dedans. Mais je suis content justement qu'on continue à me parler de tradition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui perdure.
La voix, probablement la manière de chanter, on s'imagine dans une cour, dans un vieux château, avec le seigneur et madame qui écoutent un troubadour, un ménestrel, on se dit que peut-être ils chantaient comme vous.
Alors ça, j'en sais rien du tout.
Alors, l'hiver dos astres.
L'hiver dos astres, l'hiver des astres, c'est une chanson au sein du disque, c'est la chanson qui parle de façon explicite des astres, donc des planètes, de l'infini de l'espace. Et en fait, c'est un poème de physique quantique. C'est du peu que je comprends des théories sur l'espace, de ce que j'ai lu dans des bouquins de vulgarisation. Je sais pas, je me suis mis à écrire ça. C'est principalement parce que c'est des idées que je trouve très très belles et très très inspirantes et très impressionnante. Et donc, c'était une façon, à l'intérieur de cet ensemble de chansons, d'inscrire le lien, ce fameux lien qui existe depuis la nuit des temps, entre la Terre et ce qu'on imagine mais qu'on ne peut pas voir à des distances inouïes dans l'espace. Voilà. Et donc, cette espèce de grand écart-là, avec, entre les deux, tout un tas de constructions qui sont soit de la connaissance, soit des inventions, soit des espèces de mythes, soit carrément des élucubrations. Mais en tout cas, tout le mystère qu'il y a dans cette espèce d'échelle qui grimpe vers l'infini comme ça. Et donc j'ai écrit ce texte à partir de ça.
Ouais. Votre manière d'écrire aussi fait très Moyen-Âge, parce que vous avez des constructions de phrases qui ne sont pas du tout sujet-verbe-complément comme on a l'habitude. J'ai lu un article vous concernant sur cet album. C'est un journaliste de chez Gonzai qui a écrit ça. Et je trouve ça assez drôle. Il dit « Imaginez que cette musique puisse un jour illustrer Les Visiteurs 5 avec Christian Clavier, donc le film. » Tentant la joute contre des ménestrels affublés de costumes sponsorisés par Lidl et Bandcamp devient alors un doux fantasme. Ça vous plaît, ce type de sortie ?
Alors, d'un côté, pour l'humour, oui. Pour l'image, on va dire, du Moyen-Âge me pose problème parce que c'est souvent quelque chose qui revient. En fait, moi, j'en sais rien parce que j'y suis, comme je dis souvent, j'y suis jamais allé au Moyen-Âge. C'est surtout que j'ai l'impression, moi, surtout de faire de la musique de maintenant. Et en même temps, bah, de la musique de maintenant, c'est toujours quelque chose qui reprend des éléments de ce qui existe avant. C'est-à-dire que la tradition, elle existe partout. Elle existe ailleurs que dans ce qu'on appelle les musiques traditionnelles. Et donc, curieusement, je pense que si j'enlevais certains éléments de ma musique, on ne parlerait pas du tout de ça. On me dirait « Ah oui, c'est un peu techno » ou « C'est un peu dub ou... ». Et donc, c'est juste ce truc où on sent que l'hybridation... Ça oblige à inventer des nouveaux mots, et en fait ces mots on sait pas forcément comment les trouver. Alors effectivement, moi ça m'intéresse beaucoup le Moyen-Âge par le biais de la langue, par le biais des troubadours. Depuis quelques temps je me suis vraiment plongé dedans, et c'est quelque chose de profondément passionnant et qui me transforme à mesure que je le découvre. Mais aussi à mesure que j'entre là-dedans, je me rends compte de l'étendue de ce qu'on connaît pas de tout ça. Voilà, donc on a aussi des représentations qui sont bien plantées, et en fait c'est juste qu'à des moments j'ai l'impression que c'est très très loin de nous, et qu'en fait on pourrait juste regarder pas très loin géographiquement, ne serait-ce que de l'autre côté de la Méditerranée par exemple, comparé aux musiques populaires qui existent. Je me sens proche de, je sais pas, ça, par exemple je pense à Mazouni, je me sens proche de Mazouni, même si je pense pas être exactement avoir le niveau de popularité de sa musique, mais il y a un truc comme ça. J'ai l'impression d'occuper une place relativement, enfin peut-être pas proche, mais ça me fait penser à ça. Voilà.
Je vous proposais de rejoindre tous vos instruments, Ernest Bergès, donc Sourdure. Vous êtes venu aujourd'hui dans ce studio nous présenter De Mort Vive. Je l'ai dit en français parce que c'est plus... Vous le dites comment, vous, en occitan, Vernier ?
De Mort Vive.
Oh, c'est pas très loin.
C'est proche. Mais
le son était assuré par Mathias Taylor. Merci d'être passé dans ce studio, et on vous laisse avec ce dernier titre, L'hiver d'Ossastre.
Chapa la vez.
C'était l'ami Sourdure sur RFI dans la session live qui est venu présenter son tout nouvel album De Mort Viva avec un son signé Mathias Taylor. Toutes les coordonnées de Sourdure ainsi que celles de Dénès Prigent sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde sur le musique.rfi.fr ou sur rfi.fr. C'est un peu comme vous voulez. Allez, à demain. Bye.
RFI, la